Bien. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue. Donc le quorum étant atteint, nous pouvons commencer le conseil municipal. Je vais commencer comme d'habitude par la liste des présents. Monsieur Molimiton, Madame Poncelet, Madame Demangin-Fondragon, Monsieur Gauthier, Monsieur Gripois, Madame Nanou, Madame Belloua, elle a dit qu'elle viendrait, mais avec 5 minutes, mais avec un pouvoir. Monsieur Felbaum. Monsieur Hens. Madame Braun-Pivet, pouvoir. Monsieur Assouz. Madame Carré. Madame Delpech. Monsieur Faoussi. Madame Roman. Présente. Monsieur Metz.
Présent.
Monsieur de Chamboran. Monsieur Burg.
Présent.
Madame Cabossioras. Monsieur Gluck. Madame Politis. Ravi de vous voir, madame. Monsieur Grouchko, Monsieur Vidal, Monsieur Allemand, Madame Pentecôte, Madame Leroux, Monsieur Lemasson, Madame Lenardi, Monsieur Mandagaran, Madame Vicapas, Monsieur Guérémy, Madame Doro.
Présente.
Très bien. Non, je vais garder la politique. Alors. Donc, sauf si quelqu'un d'autre est volontaire, je propose.
Bonjour.
Que M. Mandagaran donc, soit désigné secrétaire de séance. Pas d'objection? OK. Bon, le premier point, c'est l'approbation des procès-verbaux des séances du 31 janvier et du 8 février que vous avez reçus. Est-ce que vous avez des commentaires par rapport à ces procès-verbaux, Monsieur Burg?
Oui, Monsieur le maire, j'avais demandé le 8 février la communication d'un courrier du préfet. Vous savez que j'aime bien les courriers du préfet. Qui relatif à l'application de la loi SRU au Vésinet, et je n'ai rien reçu. Vous m'aviez répondu oui.
Oui.
C'est marqué dans le procès-verbal. Je voudrais savoir s'il est envisagé que ce courrier me soit adressé.
Je vous avais dit oui. J'avais dit que j'adressais à l'ensemble du conseil et donc il est en ligne sur le site de la ville.
Merci, monsieur le maire.
Mais je vous en prie. Pas d'autres remarques sur les procès-verbaux ? Adopté. Donc je vous propose de passer donc à la première délibération. C'est monsieur Metz qui est rapporteur. Donc la première délibération est relative, comme beaucoup ce soir d'ailleurs, au budget de la ville. Et donc sur la reprise anticipée du résultat 2022. Monsieur Metz, je vous passe la parole.
Merci, monsieur le maire. Bonsoir à tous. Donc la première délibération concerne donc la reprise anticipée des résultats. Alors c'est une procédure qui nous permet de vous rendre compte des comptes 2022 sans que nous ayons encore eu de la part de la trésorerie les comptes de gestion définitifs. Donc, effectivement, en termes de délai, c'était un peu juste pour eux de produire les comptes de gestion définitifs. Donc, nous avons eu les comptes de gestion provisoires attestés donc, par le trésorier. Et c'est ce qui nous permet aujourd'hui donc, de vous présenter la teneur de ces comptes 2022 et de reprendre de façon anticipée les résultats dans le budget 2023 que nous examinerons tout à l'heure. Donc je commence par, de façon un peu générale, vous présenter les écarts par rapport aux prévisions présentées dans le ROB. Donc si vous vous rappelez de notre séance dans laquelle nous avons présenté le rapport d'orientation budgétaire, nous vous présentions déjà de façon assez détaillée un atterrissage 2022 avec des commentaires précis sur les différentes rubriques de 2022. Et donc ici, on ne va pas reprendre l'intégralité de cette présentation chapitre par chapitre. Je vais simplement vous faire mention des principales variations qu'il y a entre cet atterrissage et ces comptes 2022. Donc les dépenses de fonctionnement avaient été estimées à 24 468 000 euros. Là, on atterrit à 24 515 000 euros. Donc il y a un petit écart de 47 000 euros. Qui s'explique essentiellement par des mandats sur des dépenses de services, 48 000 euros, qui sont arrivés un petit peu tardivement et qu'on a donc pu rattacher encore au compte 2022. Voilà. Il y a également eu les amortissements qui ont été comptabilisés pour 3 284 000 euros. Du côté des recettes de fonctionnement, on les avait estimées à 27 568 000 euros. On atterrit à 28 millions d'euros, donc on a des recettes qui finalement sont supérieures à ce qu'on avait prévu dans l'atterrissage de 434 000 euros. C'est essentiellement un écart sur deux chapitres. D'une part, les redevances, ça ce sont les montants que la ville perçoit au titre donc, de différents services qui sont rendus. Et d'impôts et taxes, 229 000 euros sur les impôts et taxes, où effectivement on a eu encore quelques mandats de ressources fiscales qui ont été reçus également un peu tardivement et rattachés. Voilà, donc tout ça fait que finalement le résultat réel 2022, qui est donc la différence entre les recettes réelles et les dépenses réelles, ressort supérieur au résultat prévisionnel du ROB, de près d'un demi-million d'euros. Voilà, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. On a un résultat réel, quand on dit réel, c'est le résultat de trésorerie, donc hormis les opérations purement comptables comme les amortissements, mais en trésorerie, donc, on a eu un résultat positif de 3,5 millions d'euros. Donc c'est celui qu'on vous présente ici. Le résultat réel est également appelé capacité d'autofinancement brut, puisque c'est la capacité d'autofinancement qui permet notamment de rembourser les emprunts et d'autofinancer les investissements. Donc ce résultat réel 2022 est de 3,5 millions. Il est en légère baisse par rapport à celui de 2021, mais il reste dans l'objectif d'être supérieur à 3 millions, malgré la très mauvaise nouvelle de 2022, je vous la rappelle, si vous l'avez oublié, c'était la très forte hausse du SRIF, le Fonds de solidarité, la région Île-de-France, qui a un montant qui nous est donc annoncé en cours d'année, qu'il est difficile de budgéter, et qui est intégralement donc pris de la trésorerie de la ville du Vésinet et versé au Fonds de solidarité Île-de-France. Et ensuite, de là, il est reversé à d'autres communes qui en bénéficient. Et donc, il y a une hausse du SRIF de 0,5 million d'euros non budgété qu'on a réussi donc à partiellement compenser en 2022. En 2022, bon, on a eu notamment un résultat exceptionnel avec la vente du terrain devant la gare Vésinet-Centre pour 342 000 euros. Ça a permis un peu de compenser cette mauvaise nouvelle non budgétée. Et donc, le résultat réel budgété, j'anticipe un peu sur la suite, mais d'ores et déjà, on voit ici qu'il est budgété de l'ordre de 3,2 millions d'euros. Il est prudent, évidemment. Comme tout budget, vous savez que les dépenses qui sont budgétées ne peuvent pas être dépassées. C'est un plafond, le budget, en termes de dépenses, alors que les recettes, elles, sont estimées de façon prudente et on a régulièrement des recettes réelles supérieures au budget. Donc, ça veut dire qu'un résultat réel est en général meilleur que le résultat budgété et ça s'est concrétisé ces dernières années. Donc, rapidement sur les équilibres, les principaux équilibres de ces comptes 2022. Donc, je commence par les dépenses de fonctionnement. Donc, on voit ici, si on regarde les principaux montants, que les dépenses des services communaux sont en baisse continue. Voilà, c'était 5,8 millions en 2021. On avait budgété 5,572 millions, on a réalisé 5,510 millions, très proche donc du budget. On a eu donc la forte hausse du SRIF dont je parlais tout à l'heure. Celle-ci, on la voit dans le chapitre 14, puisqu'il faisait 1,8 million en 2021 et on est passé à 2,230 millions en 2022. Et après, autre fait à mentionner ici, donc les charges de personnel finalement ont été assez inférieures au budget, puisqu'on avait budgété 14,1 millions. Compte tenu notamment de la hausse du point d'indice des fonctionnaires décidée par le gouvernement, compte tenu de la revalorisation également décidée par le gouvernement des catégories B et C. Donc tout ça a eu un impact significatif sur le budget. Mais on a, quand on a préparé le budget, on a commencé déjà à geler un certain nombre de postes par mesure d'économie. Et donc en réalisé, on est à 13,7 millions de dépenses de personnel, contre 14,1 millions budgétés. Et enfin, les amortissements n'étaient pas comptabilisés en 2020 et 2021, et donc il y a un rattrapage qui est présenté ici. En ce qui concerne les recettes de fonctionnement, on a ici un chapitre 70, qui sont donc les redevances perçues de la part des usagers, plus élevées que le budget. Alors, par quoi il s'explique, si on peut avancer le slide? Voilà, donc il s'explique principalement par deux lignes. Ce sont les bonnes recettes des centres de loisirs, 61 000 euros de plus que le budget, et également des forfaits post-stationnement, 45 000 euros supérieurs au budget. Le chapitre 73, là, ce sont les taxes des ménages et les attributions de compensation de la communauté d'agglomération, les droits de mutation. Donc là, on a un écart positif également lié aux meilleures rentrées fiscales. Donc on a à peu près 400 000 euros de taxes des ménages et de compensation de l'État au titre de la taxe d'habitation, donc environ 400 000 euros de plus que le budget. Et les droits de mutation, on avait vu donc une baisse du marché immobilier, on avait budgété des droits de mutation en baisse par rapport à 2021, on s'est trompé juste de 0,1 million d'euros. Voilà. Donc pour vous rappeler les chiffres, on a touché 3 millions de droits de mutation en 2021. C'était un record, hein. C'était vraiment une année record en termes de droits de mutation, qui sont les droits que la ville perçoit lorsqu'il y a des ventes immobilières. Donc en 2022, on avait budgété 2,5 millions et finalement on a eu 2,6 millions. Voilà. Et on s'attend encore à une baisse de ces droits de mutation en 2023, compte tenu de la forte montée des taux d'intérêt qui impactent négativement le marché immobilier. Sur le chapitre 74, on a un petit écart négatif lié aux aides de la CAF pour les crèches et les centres de loisirs. Et en chapitre 77, ça c'est ce que je mentionnais plus tôt, un produit exceptionnel, donc 340 000 euros, la cession du terrain devant la gare RER Centre qui a permis donc le démarrage du chantier de la résidence étudiante. Donc on en arrive aux dépenses d'investissement cette fois. Donc ici on voit que par rapport aux dépenses réelles d'investissement qui avaient été budgétées, on est pas mal en dessous en termes de réalisés, hein. On avait budgété 17 millions d'euros de dépenses d'investissement et finalement on a engagé 9 millions d'euros, on a réalisé 9 millions d'euros. La principale différence, c'est la ZAC Princesse, qui a pris du retard puisqu'il a fallu lancer les marchés, et avec une situation encore tout début 2022 marquée encore par les difficultés du Covid. Donc on avait budgété 5 millions d'euros et finalement on a réalisé 1,4 million d'euros sur l'exercice 2022. Sur le slide suivant, je vous détaille les principales dépenses d'investissement 2022. Donc pour expliquer les colonnes, vous avez, comme chaque année, la première colonne, c'est le budget pour l'année. La deuxième colonne, ce sont les restes à réaliser. Ce sont les bons de commande que nous avons envoyés aux entreprises afin de leur permettre de démarrer les travaux. mais elles n'ont pas encore soit démarré, soit elles n'ont pas fini. En tout cas, on n'a pas encore la facture. Donc, c'est ce qu'on appelle les restes à réaliser. Donc, ça nous donne un total budgété. Et ensuite, la colonne engagement, c'est ce qu'on a réellement engagé sur l'exercice 2022. Donc, la ZAC, j'en ai parlé tout à l'heure. Sur l'opération de vidéoprotection, on a engagé 334 000 euros. Donc là aussi, il y a eu un petit décalage dans les opérations liées à une modification réglementaire qui nous permet maintenant de travailler avec Seine et Yvelines numérique, ce qui n'était pas le cas auparavant. Ensuite, l'opération sur les opérations de voirie, on a engagé 500 000 euros environ. Sur l'éclairage public, on a engagé un peu moins d'un million d'euros avec des gros restes à réaliser. Là, ça s'explique notamment par le fait que le marché éclairage public est arrivé à terme en 2022. Et donc, on a renouvelé le marché. Et dans le nouvel marché, on a inclus des obligations pour le prestataire en termes d'économie d'énergie. Et donc, effectivement, en attendant ce nouveau marché, on a eu quelques mois où on avait un peu gelé les opérations. Et là, suite à la signature du nouveau marché avec ses obligations d'économie d'énergie, ça a été relancé. Et donc, on a des restes à réaliser en 2023 assez importantes sur cette opération d'éclairage public. Il y a eu la fin de l'opération Matalou, 330 000 euros. L'opération centre de soins, donc ça c'est l'acquisition des murs de la maison de santé dans le quartier Princesse. Donc on a racheté donc ces murs au rez-de-chaussée de la résidence senior, donc pour 1,6 million d'euros. Et pour l'instant, nous n'avons pas encore lancé les travaux d'aménagement intérieur. Donc c'est ce qui explique l'écart par rapport au budget. On est en cours de dépôt de dossiers de subvention pour se faire subventionner ces aménagements. Et donc, tant qu'on n'a pas formellement déposé ces dossiers, on ne lance pas les travaux. Et enfin, la dernière opération significative, c'est l'opération Route de Croissy. Vous vous en rendez tous compte si vous circulez par là. Donc là, on a engagé 676 000 euros. Et là, ça concerne exclusivement l'enfouissement des réseaux, donc les réseaux d'éclairage, d'électricité, de télécom, etc., qui sont enfouis alors qu'ils étaient auparavant sur des pylônes. Voilà pour les principales dépenses d'investissement 2022. Sur les côtés recettes d'investissement, donc là, si on regarde sur la première ligne, là, c'est le FCTVA, c'est le fonds de compensation de la TVA, c'est un mécanisme qui permet donc à la collectivité de récupérer la TVA sur l'exercice qui suit celui où les dépenses ont été effectuées. Donc c'est légèrement plus faible que prévu, mais on a fait des demandes de régularisation auprès de la préfecture et ce sera régularisé en 2023. En chapitre 24, là, on avait notamment budgété la cession du terrain gare RER qui finalement figure en recette exceptionnelle. Et on reporte dans le budget 2023 les deux autres cessions immobilière, j'en parlerai au moment du budget. Au chapitre 13, ce sont les subventions d'investissement. Donc là, c'est le montant des subventions qui nous ont été notifiées sur 2022, 429 000 euros, et elles figurent en reste à réaliser puisqu'elles n'ont pas encore été mobilisées en trésorerie. Et enfin, dans les restes à réaliser, il y a également l'emprunt que nous avons contracté pour financer l'acquisition de la maison de santé. Cet emprunt d'1,8 million a été reflété dans les restes à réaliser par la trésorerie. Donc il est pas dans la ligne d'emprunt, il est dans les restes à réaliser. Voilà, ça le reste, ce sera régularisé là aussi sur 2023. Voilà, et les amortissements ont finalement été revus à la baisse. Lors de la décision modificative, ils avaient été portés à 9 millions d'euros, colonne du milieu. Et finalement, nous les avons comptabilisés pour 3,2 millions, qui est un montant voilà, plus normal compte tenu du montant des immobilisations que nous avons visionnées et qui sera à peu près le même l'année prochaine. Donc voilà, compte tenu de ces différents éléments des comptes 2022 qui encore une fois ne diffèrent pas très significativement des comptes que nous avons développés lors de la présentation du rapport d'orientation budgétaire, Donc voici les résultats et donc ce que je vous demande d'enregistrer en reprise anticipée. Donc un résultat comptable de la section de fonctionnement de 202 000 euros qui se rajoute aux résultats antérieurs qui ont été reportés d'une année sur l'autre. Donc là, c'est un mécanisme de report. À chaque fois que vous exigez un excédent, vous les reportez sur l'exercice suivant. Donc là, il y a un stock de 8 millions d'euros qui provient des années précédentes. Et donc, on a un résultat affecté de 8 millions 3. En section d'investissement, on a un solde négatif de 3 millions 3 d'euros et un résultat antérieur de 2 millions 4, ce qui nous donne un résultat affecté d'un peu moins d'un million d'euros en négatif. Et donc, nous vous demandons donc de voter en reprise anticipée, une affectation en réserve de 1 million 9, un report en investissement de dépenses de 900 000 euros et un report en fonctionnement pour les exercices suivants de 6 millions 4. Voilà, j'en ai terminé avec ma présentation.
Très bien, merci Monsieur Metz. Quelqu'un veut-il faire un commentaire ou poser une question? Monsieur Gocci.
Merci Monsieur Metz pour votre présentation. Vous nous demandez maintenant de voter la reprise anticipée du résultat 2022. À ce jour, vous ne nous avez pas encore communiqué le compte administratif 2022 ni le compte de gestion 2022, car il ne serait pas encore validé et pas dans un état communicable. Je trouve qu'il est regrettable que vous n'ayez pas réussi à sortir ces comptes pour le conseil municipal où on va voter le budget primitif et cette reprise anticipée du résultat. Vous aviez réussi à le faire les années précédentes. Même si votre estimation du résultat 2022 visée par M. le maire et la trésorerie est la meilleure estimation à ce jour, à défaut d'un compte administratif approuvé, nous n'avons aucune certitude sur la véracité de ces chiffres. C'est pour ça que nous allons nous abstenir lors de ce vote.
Ok, très bien. D'autres commentaires ? Pardon, vous voulez répondre, monsieur ?
Oui, parce que c'est une réponse rapide. En fait, comme vous l'avez vu, on a une attestation du trésorier qui atteste donc que le résultat du compte de gestion provisoire est le même que le compte d'administratif provisoire. Donc, voilà, on a une attestation du trésorier qui est valable et qui nous rassure sur ces comptes.
Mais vous avez refusé de nous communiquer ces comptes de résultats et administratifs provisoires.
Ok, donc je vous propose de passer au vote. Qui s'abstient? Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 abstentions. Donc, la délibération est acceptée. Pardon?
Ah oui,
oui, j'ai des abstentions. Ah, pardon. Ouais, oui, mais enfin, bon, qui vote contre? Oui. J'étais sur les abstentions en ayant fait le plein, mais bon. Qui vote contre? Personne. Très bien. Donc, je répète, délibération acceptée. Je vous propose de passer à la seconde délibération, qui est le budget annexe du stationnement, avec aussi une reprise anticipée du résultat 2022. Toujours Monsieur Metz.
Oui, donc là, c'est le même mécanisme que précédemment. Bon, c'est un petit budget. Je rappelle que c'est le budget des parcs de stationnement de la ville, place du marché, parking du théâtre, parking Foch et les parkings à vélo des gares RER. Là, il n'y a pas d'écart significatif par rapport aux comptes qui ont été présentés lors du ROB. Donc, je vous présente simplement les résultats. Donc, on a un résultat de fonctionnement 2022 de 154 000 euros. Avec les reports des exercices précédents, ça nous donne un résultat affecté de 413 000 euros. Côté investissement, on a un résultat proche de zéro, hein, 2400 euros, avec des reports négatifs des années précédentes de 124 000 euros. Et donc, ça nous donne en affectation, en réserve, 122 000 euros. En report en investissement, 122 000 euros de dépenses et donc en report en fonctionnement, 351 000 euros. Des questions ?
Monsieur Bocci.
Même remarque que précédemment.
Très bien. Qui s'abstient? 12. Ah, 13. Qui vote contre? Personne. Délibération acceptée. Troisième délibération, mise à jour d'autorisation de programme et crédit de paiement pour l'opération de la ZAC Princesse. Monsieur Metz.
Oui, donc là, pas de variation importante poste à poste. Un seul élément important. Donc, on a voté déjà cet APCP lors du conseil municipal du mois de décembre. À cet effet, il a été remonté un point qu'on ignorait à l'époque, c'est que la crèche Princesse, qui fait l'objet donc de projets d'agrandissement, repose sur un bail emphytéotique, avec une fin de ce bail emphytéotique en 2035. Et donc, compte tenu de la nature de ce bail, des incertitudes que ça entraîne pour l'exploitation future de la crèche, il a été décidé pour le moment de geler ce projet. On souhaite y voir plus clair quant aux intentions de l'État qui a donc attribué ce bail emphytéotique. Et donc, les travaux d'aménagement de cette crèche, pour l'instant, on a décidé de les retirer de l'autorisation de programme et des crédits de paiement. Et donc, compte tenu de ce retrait de projet, je rappelle que le reste à charge de la ville est maintenant de 3,4 millions d'euros par rapport au programme d'ensemble qui est chiffré à peu près 15,6 millions d'euros sur les opérations groupe scolaire, gymnase, aménagement et cimetière. Voilà, rien de plus sur les autres éléments.
Madame Cabot-Suras.
Merci. Alors, la délibération sur la ZAC et l'APCP sur la ZAC, pour ceux qui ne sont pas au courant derrière cette avalanche de chiffres, c'est le grand scandale de cette mandature. On était parti au début sur un projet évalué à 10 millions d'euros. Donc, en début de mandature, il y a 3 ans, la ZAC, donc les équipements à la charge de la mairie, donc la rénovation de l'école, l'extension de la crèche, le nouveau gymnase, coûtait 10 millions d'euros. Maintenant, avec donc tout le retard qui a été pris, ça coûte 15 millions d'euros. Le reste à charge de la ville est passé, comme l'a dit M. Metz à juste titre, de 650 000 euros, qui était tout à fait supportable pour le budget de la ville, à 5 millions d'euros de dépassement. Donc ça, je veux quand même que tout le monde l'ait bien en tête, ça va coûter 5 millions d'euros à chacun d'entre nous, les contribuables du Vésinet, parce que ce projet a été mal géré. C'était absolument pas ce qui était prévu au départ. Le deuxième scandale, ce sont les retards absolument aberrants. Donc le gymnase qui devait être prêt, il devait y avoir la construction du nouveau gymnase et une fois qu'il était construit, la destruction de l'ancien. Résultat, on va se trouver pendant un an, donc l'année scolaire 2023-2024, sans gymnase. Donc les enfants, les élèves, pas de sport dans le gymnase pendant un an. La crèche, c'est pareil. On avait prévu d'augmenter les places en crèche pour faire face à l'afflux de demandes des personnes qui viendraient dans les nouveaux logements de la ZAC. Alors là, on vient de nous dire carrément qu'on annule l'extension de la crèche. Donc il n'y aura pas de nouvelles places en crèche. Le vrai scandale de tout ça, c'est que cette situation est entièrement due à l'inaction de cette majorité depuis le début de la mandature, pendant 2 ans. Le projet a été ficelé lorsqu'ils sont arrivés au pouvoir. Il n'y a eu aucun lancement des travaux pendant 2 ans. Hein, donc effectivement, il a fallu passer des appels d'offres. Mais enfin, ça, c'est quand même quelque chose qu'on savait depuis 2020. Et il n'y a pas eu de pilotage, ni de la gestion opérationnelle du projet, ni de pilotage des dépenses sur une base pluriannuelle. Donc ça, c'est ce qu'on avait demandé en arrivant, c'est d'avoir une estimation réaliste, pas les APCP qu'on voit là, qui sont complètement explosés, une estimation réaliste et un vrai pilotage sur une base pluriannuelle. Ça n'a pas été fait. Nous avons suivi ce chantier de manière attentive, et tous les groupes d'opposition. Il y a 1 an, nous avons demandé à faire un audit sur le déroulement de la ZAC Princesse et des équipements à la charge de la ville. Nous avons demandé à avoir accès à tous les documents, et notamment au budget et au calendrier. Il y a un an, on voyait déjà qu'il y aurait des dépassements de budget très significatifs et des retards absolument colossaux. Donc, on a mis en garde la majorité, d'ailleurs sous un format tout à fait correct, puisque c'était donc pas dans le cadre d'un conseil municipal, mais dans le cadre d'une réunion restreinte, en tirant la sonnette d'alarme. On nous a répondu, tout va bien, ne vous inquiétez pas, le calendrier sera tenu, et le budget aussi. Un an après, 5 millions d'euros de dépassement. Donc ça, cette responsabilité, ces 5 millions, c'est votre responsabilité directe, monsieur le maire, et vous ne pouvez pas le nier. Le quatrième scandale de cette histoire, c'est cette délibération. C'est que maintenant, pour camoufler quand même la catastrophe de cette gestion de projet, on en vient à truquer les comptes de l'autorisation de programme pluriannuel. Donc là, ce qu'on fait, c'est que pour diminuer un petit peu les 5 millions d'euros, on se dit, ben, on va retirer les 1,5 million d'euros de la crèche. Donc la crèche déjà, il faut savoir que c'est Guillaume de Chamboran qui a gentiment porté à la connaissance de la majorité le fait que la crèche n'était pas sur un emplacement qui était propriété de la mairie. Donc voilà, ça, on l'a découvert. Et du coup, on ne sait pas ce qui va devenir de la crèche. On décide de retirer le projet de la PCV, donc de ne pas le financer. Moi, ce que je comprends, c'est qu'il n'y aura pas d'extension de crèche. Donc les nouveaux habitants qui vont arriver dans la ZAC Princesse, là, les 450 logements, ce ne sera pas accompagné d'une infrastructure sociale adaptée pour gérer les enjeux de cette nouvelle population. Par contre, on retire les 1,5 million d'euros des dépenses. Par contre, on se garde la subvention de GPA, donc de l'aménageur de la ZAC, qui nous donnait 650 000 euros pour financer la crèche. Donc ça fait artificiellement passer le résultat de 5 millions à 3,5 millions d'euros, ce qui est totalement insincère. Donc là, moi, à ce stade, je suis obligée de le dire, c'est de la fraude comptable. Donc c'est hors de question que nous votions une délibération pareille. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est que va-t-on faire de la crèche? Si le projet est annulé, il faut rendre la subvention à GPA. On ne va pas quand même garder ces fonds de manière injustifiée. Là, c'est de la malversation. Moi, je voulais quand même le dire. Vraiment, là, je suis alarmée. Je n'ai jamais vu une telle gestion catastrophique, alors que j'en ai fait des audits d'administration en tant que magistrate à la Cour des comptes. J'en ai fait un paquet. Là, je n'ai jamais vu une telle gestion des moyens d'une administration publique. Je voulais le dire, et de manière publique.
Burg.
Merci, monsieur le maire. Je crois que Stéphanie Cabos-Fioras vous a parfaitement résumé la situation de cet accident industriel pour notre ville. J'aimerais ajouter quand même trois questions. La première, il était prévu en commission travaux qu'il soit malgré tout gardé 100 000 euros d'études sur la crèche. Pourquoi ? Franchement, alors qu'on retire de la PCP la réalisation des travaux de la crèche, pourquoi garder ces 100 000 euros? Est-on déjà engagé vis-à-vis du prestataire? Auquel cas, il faudrait nous communiquer le contrat. Si on n'est pas engagé, où vont aller ces 100 000 euros et quelle est la raison pour laquelle on va les garder? Ça, c'est la première question. Deuxième question concerne le gymnase. À l'appel d'offres qui a été passé, sauf erreur de ma part, en octobre dernier, il y avait 4 lots infructueux. Je n'ai vu passer aucune décision du maire, dans les décisions qui nous sont communiquées avant chaque conseil municipal, je n'ai vu passer aucune décision portant sur un de ces 4 lots infructueux. J'ai cru comprendre que 3 d'entre eux avaient malgré tout été signés, que le quatrième n'était pas encore signé. Ce qui signifie que dans l'état actuel des choses, vous avez posé une première pierre en grande pompe de ce gymnase, alors que l'ensemble des marchés permettant de le réaliser ne sont pas encore signés. Cela me semble relever d'une gestion hasardeuse d'un chantier, pour le moins et pour le dire simplement. La troisième chose, et c'est en complément de ce que vous a dit Stéphanie Gabossura sur la crèche, la gestion d'une ZAC, ça ne se fait pas au petit bonheur la chance. La gestion des participations aménageurs versées aux collectivités concédantes, ça ne se fait pas au petit bonheur la chance. L'aménageur a vendu des terrains à des promoteurs avec un cahier des charges de cession de terrain, avec notamment un prix comprenant la participation que l'aménageur devait ensuite reverser à la collectivité locale pour un certain nombre d'équipements publics et en superstructure, notamment une crèche. Les promoteurs ont vendu leurs appartements à des habitants du Vésinet qui ont payé pour avoir cette crèche. Autrement dit, nous sommes en train de nous mettre dans la poche pour effacer des dépassements de budget qui sont injustifiables, avec de l'argent qui a été versé par les habitants aux promoteurs, par les promoteurs à GPA et par GPA à la ville pour réaliser une crèche. C'est absolument inadmissible et inacceptable. C'est au sens courant du terme, je quitte mes habits de juriste, au sens courant du terme, c'est un abus de confiance, monsieur le maire.
Répondre en bloc, d'autres. Madame Carré.
Donc, en complément de ce qui a été dit par mes collègues, je vais surtout insister sur le sujet de la crèche. Donc, le maire avait quand même prévu des travaux au sein de la crèche Princesse pour un budget de 1,7 million d'euros. Il faut quand même avoir ce montant en tête. Et je tiens à remercier effectivement monsieur Guillaume de Chamboran qui a fait remarquer lors d'un précédent conseil municipal que le terrain et le bâtiment n'appartiennent pas à la ville. L'occupation de ce bâtiment est régie par un bail emphytéotique qui arrive à échéance le 31 mars 2035. Pour mémoire, le bail emphytéotique avait été signé en 1975 pour une durée de 60 ans entre l'association Les Amis de la Première Enfance et l'État. En 2012, l'association a cédé le bail à la ville du Vésinet pour le temps restant à courir. La date d'échéance est donc toujours 2035. Comment le maire, à tout le moins son adjointe à l'urbanisme et son adjoint aux travaux, pouvait-il ne pas être au courant de ce sujet de fin de bail? Le niveau d'amateurisme, d'incompétence et de négligence est extrêmement préoccupant. Mais finalement, comme le disait Stéphanie Cabossera, ces dépassements sur le quartier Princesse sont tels que l'arrêt de ce projet rend service au maire. Vous en avez en effet profité pour tout simplement faire disparaître de la PCP ce projet de crèche. Cela a permis de réduire le dépassement de 5,7 millions à 4,1 millions, ce qui reste énorme. Doit-on comprendre que le projet est complètement abandonné? Vous n'essayez même pas de négocier avec l'État un renouvellement du bail? Autre question qui se pose, maintenant que la création des 32 berceaux supplémentaires est abandonnée sur cette structure, quelles solutions alternatives avez-vous mises en œuvre pour accueillir les bébés des familles issues des 460 logements du nouvel écoquartier? Merci.
Monsieur Gocci.
Oui, je crois que mes questions seront les mêmes, mais je préfère quand même les exprimer. Dans l'avenant 3 au traité de concession d'aménagement de la ZAC Princesse, signé en fin 2020 par vous, monsieur le maire, et GPA, la contribution de GPA pour la rénovation de la crèche a été bien isolée, bien identifiée, est chiffré à 612 000 euros. Il serait en droit de les réclamer si vous ne faites pas les travaux. La rénovation de la crèche faisait partie du projet global et était jugée indispensable par tout le monde pour répondre aux besoins des 1 600 habitants supplémentaires. Pensez-vous aujourd'hui que l'agrandissement de la crèche n'est plus nécessaire et qu'ainsi le restant à charge pour la ville de la ZAC Princesse pourrait être limité? Pensez-vous que c'est un abandon définitif ou simplement une pause pour peut-être avoir de nouveau une rénovation de la crèche à 1,5 million d'euros, voire 2, voire 3 millions d'euros avec l'inflation actuelle? Merci.
Monsieur Gauchko.
Oui, je ne vais pas reprendre, je partage tout ce qui vient d'être dit sur cette crèche. Et je trouve encore une fois... qu'on travaille ensemble sur ce budget avec une légèreté incroyable. On supprime de la PCP cette crèche, ce qui veut dire qu'elle ne sera pas réalisée. Donc, on aurait dû au préalable, comme ça a été évoqué par M. Gucci, négocier avec GPA pour changer le traité de concession, faire un avenant au traité de concession, pourquoi pas. On peut considérer que faire une crèche, finalement, ça ne sert à rien, ça n'engage que vous. Maintenant, vous nous dites d'un autre côté, ah, mais on veut quand même voir qu'est-ce que l'État, quelle est la position de l'État sur ce sujet, pourquoi pas. Mais alors pourquoi à ce moment-là, si c'est ça le sujet, pourquoi l'avoir supprimé de la PCP? Alors, on aurait pu le décaler peut-être d'un an, de deux ans, enfin que sais-je, on aurait pu la décaler à plus loin et garder les réalisations de cette crèche. Alors que là, on va se mettre dans une situation absurde, puisqu'on va avoir nécessité de rembourser ces 600 000, sans compter, à mon avis, des problèmes que ça, d'autres peut-être problèmes juridiques que ça peut poser, puisque ça a été évoqué que tous les promoteurs, quand ils ont acheté leur parcelle, ont signé dans ces conditions. Donc à ce moment-là, ils vont pouvoir peut-être dire il y a un problème, c'est pas fait, tout ceci n'est pas conforme. Encore une fois, on n'y comprend rien. On fait 100 000 euros pour un projet qu'on ne va pas faire. On l'a payé, on l'a engagé, on ne sait pas. 100 000 euros, pourquoi ? Pour étudier quelques travaux. Travaux dont le montant, on vous avait fait part du montant totalement, je serais prudent, hallucinant de ce 1,7 million, c'est-à-dire à peu près une fois et demie le coût de construction du bâtiment. Donc on est vraiment dans des sommes qui interpellent, comme on dit, et qui font douter quand même de la qualité, voire même, peut-être pire, de l'intervenant. Donc aujourd'hui, on n'y comprend plus rien. On ne comprend pas si cette crèche est là et plus là, elle va être là, quand et pour combien. Ce montant qui était complètement délirant, vous ne le mettez pas en cause. Donc sincèrement, je ne comprends strictement rien à ce qu'on fait là. Ce que je vois, c'est que le dossier est traité avec une légèreté coupable et que c'est absolument inadmissible.
Ok, donc je propose d'abord, on va répondre en bloc à toutes ces interrogations.
Je voulais juste préciser par rapport aux chiffres qui ont été annoncés de 600 et quelques mille euros par M. Gucci. Je pense en fait que le chiffre sera pire que ça parce qu'en fait la totalité de cette subvention a été soumise à des clauses de révision de subventions qui sont assez importantes. Donc, si on raisonne de manière homothétique, il est clair que le 600 000 euros, à mon avis, il est plutôt autour de 750 000 euros aujourd'hui. Merci.
Ok. Donc, dans l'ordre, donc, M. Metz, oui. M. Mandagaran, qui ont demandé la parole, et ensuite les spécificités à la fois sur les crèches et sur le centre socio-sportif.
Oui, donc... Déjà, je ne peux pas laisser passer ça, hein, Madame Cabos-Fioras, vraiment, vous êtes vraiment limite dans vos accusations. Je vous invite quand même à reconsidérer ce que vous venez de dire. Quand on dit truquer les comptes, franchement, vous osez tout. Quoi. Votre boussole, c'est de prendre le contre-pied systématique de nos propositions. Vous n'avez pas la parole. Merci. Alors, la dernière fois, vous nous reprochiez, mais comment pouvez-vous envisager de lancer des travaux sur un bâtiment qui ne vous appartient même pas? Mais vous n'êtes pas sérieux, mais c'est grave, c'est une mauvaise gestion. Et alors aujourd'hui, ah, mais vous truquez les comptes. Donc, à chaque fois, c'est le même ton, les mêmes insinuations. C'est vraiment limite et ça commence à être insupportable. Donc, en plus, on s'est expliqué déjà sur ces points avec les personnes qui étaient là en commission finance. On a eu une très bonne discussion dans une... ambiance sereine. Bon, vous n'y étiez pas, tant pis pour vous. Bon, peut-être que vous aurez demandé à vos collègues de vous expliquer ce qui a été dit. Non, on n'est pas engagé vis-à-vis d'aucun entrepreneur sur ces travaux-là. Non, on n'a pas décidé d'arrêter le projet de façon définitive. On l'a gelé, comme je l'ai indiqué auparavant. On a d'ailleurs demandé à l'État qui nous indique quelles sont ses intentions sur ce bail emphytéotique. On n'oublie pas les habitants de la crèche Princesse, puisqu'on crée une petite trentaine de berceaux dans une nouvelle crèche qui est boulevard Carnot, qui est quand même pas très loin du quartier Princesse. Donc, il y aura des places pour les bébés des nouveaux habitants de Princesse. Les travaux sont bien engagés. Je vous rappelle quand même qu'on a 1 million d'euros de budget pour cette nouvelle crèche. Donc, ce n'est pas rien. Et quant au lancement d'une discussion avec GPA, on est effectivement preneur de lancement d'une discussion avec GPA, puisque on l'a déjà dit ici, le montant de ces travaux qui était estimé à l'époque du concours à 555 000 euros, on voit aujourd'hui qu'il était très largement sous-estimé, qu'il n'incluait pas le désamiantage et qui n'incluait pas tout un tas d'opérations qui sont obligatoires. Donc ce serait pas mal effectivement de reparler avec GPA, de revenir sur ces estimations-là. Donc on veut tout à fait bien lancer ces discussions, parler également de la crèche du centre. Donc on a un certain nombre de discussions à lancer avec eux. Mais en tout cas, l'opération est gelée en attendant d'y voir plus clair. Voilà.
Monsieur Mandagaran.
Bonjour. En préambule, je voudrais dire que j'ai été un peu, abasourdi par le fait que Mme Cabos-Lloras fasse état de sa position de magistrate à la Cour des comptes dans cette Assemblée. Il me semble qu'il y a un devoir de réserve des magistrats qui ne permet pas ce type d'intervention, mais pour ma part, je ne suis pas juriste. Donc je répondrai sur... Je répondrai...
S'il vous plaît.
Je répondrai uniquement sur la question donc des délais et des dépassements concernant la ZAC. Donc en ce qui concerne les délais, c'est une antienne qui revient. Tout était ficelé. On n'avait plus qu'à commencer les travaux, donner le premier coup de pioche. Qu'en était-il en réalité? On avait des concours qui avaient été lancés effectivement pour l'école et pour le gymnase, rien pour le reste. Et je rappelle qu'après un concours, il y a un avant-projet sommaire, qu'après l'avant-projet sommaire, il y a un avant-projet détaillé, qu'après vient un projet, puis un dossier de consultation des entreprises. Et vous pouvez prendre à peu près tous les projets qui sont en France et en Navarre. En gros, il faut 2 ans pour faire l'ensemble de ces étapes, sans parler du permis de construire, etc. La deuxième question est celle des dépassements, où là, vous faites des comptes qui font penser à une arithmétique étrange, où premièrement, vous additionnez, vous faites la différence entre des choses qui ne sont pas avec les mêmes valeurs, c'est-à-dire que quand on compare des euros de 2023 et des euros de 2014 ou de 2019, ce ne sont pas les mêmes. Deuxièmement, vous savez très bien que sur un certain nombre de sujets, il y a eu des changements de programme, des agrandissements de tel ou tel équipement. Troisièmement, il y a eu l'inflation et personne n'ignore aussi qu'il y a eu une explosion des coûts des matériaux. Donc, sur les dépassements, M. Metz a déjà eu l'occasion de s'expliquer. On a déjà eu l'occasion de confirmer en commission de travaux. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci.
Très bien, Mme Vicapas.
Je voulais juste rappeler à M. Burg, qui était en commission urbanisme, travaux et informatique, qu'on avait répondu à sa question des 100 000 euros. Donc, à quoi ça sert de faire des commissions? C'est pour reposer éternellement les mêmes questions. Donc oui, ce qui a été dit, c'est qu'il y avait un certain nombre d'investigations et d'études qui étaient en train de se terminer justement pour voir ce qu'on allait faire ensuite et qu'il n'était pas du tout certain qu'on dépenserait ces 100 000 euros. Ça a été dit et répété en commission, donc je me permets de le rappeler.
Ok, Madame Roman, sur un point sur les crèches.
Donc, Monsieur Maetz a déjà un peu répondu en partie. Donc, pour les crèches princesses, pour les enfants qui arrivent de princesse, il y aura la crèche du centre et à la commission d'attribution, on va faire en sorte de réorienter toutes les personnes qui sont au centre vers la crèche du centre, justement, pour libérer des places à princesse. Et on a bien dit qu'on ne le gelait pas et qu'on attendait juste le retour de l'État suite au courrier ou avec la demande. Mais moi, je compare par rapport aux écoles. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de familles qui arrivent dans les classes. Donc, on a le temps de voir ce qui va se passer. Et je remercie Gabrielle de m'alerter maintenant qu'elle est partie des problématiques du sujet.
Madame Delpeche, pour le centre socio-sportif.
Sur le centre socio-sportif, puis répondre sur la partie concernant le fait qu'il n'y a pas de solution pour l'année prochaine s'il y a un décalage, comme il a été annoncé, du centre socio-sportif. Alors, je ne sais pas d'où vous sortez ces informations-là, d'autant plus qu'il y a des personnes qui sont ici présentes avec lesquelles on travaille sur les solutions. Il y a déjà eu deux réunions. On est en étroite collaboration sur plusieurs solutions. Donc, non, il y aura bien du sport pour les écoles et pour les associations sans problème l'année prochaine. Donc, la prochaine fois, avant de dire des choses, je vous demande de les vérifier même entre vous avant.
Ok, Ok, non, tout le monde s'est exprimé hein, sur cette délibération. Donc,
on peut parler une deuxième fois.
Désolé.
On aura parlé deux fois.
Monsieur le maire, il y a quand même un certain nombre d'inexactitudes qui viennent d'être proférées.
C'est le moment où tout le monde s'est exprimé.
On aura parlé deux fois. Monsieur le maire, je ne suis pas une deuxième fois. Désolé, mais...
S'il vous plaît, on respecte le règlement.
Le règlement ne prévoit absolument pas ce genre de choses, monsieur le maire.
Je vous propose de passer au vote.
Mais non, c'est toujours le cas. C'est hors de question.
Alors, monsieur le maire, juste une précision quand même.
Monsieur Birg, après il y a des questions diverses, on pourra discuter, mais là on est sur une délibération et donc on passe au vote.
Monsieur le maire,
c'est hors de question. C'est hors de question. Vous nous laisserez nous exprimer.
Vous vous êtes exprimé.
Non, mais on a des droits de réponse.
Qui s'abstient?
Alors, moi, je voudrais parler des chiffres qui sont donnés sur la crèche centre.
Qui vote contre?
Vous indiquez...
Monsieur Moraditi, vous ne pouvez pas, contrairement à d'autres institutions,
Monsieur Grouchko, c'est monsieur le maire, s'il vous plaît. Coupe le micro.
Vous ne pouvez pas limiter une parole contrairement à d'autres institutions. C'est peut être considéré comme quelque chose d'étrange, de bizarre. Je le partage tout à fait. Je l'ai subi aussi. Je suis complètement d'accord avec
Grouchko,
ça.
Monsieur Grouchko, vous savez que quand un maire demande de passer au vote, Monsieur Grouchko, quand un maire demande de passer au vote,
la discussion est terminée. Et donc, vous ne pouvez pas.
C'est une question de respect pour les personnes qui sont venues et qui aimeraient bien avoir des informations complètes.
À aucun moment je limite le temps de parole. Je vous ai donné le temps de parole à chacun d'entre vous.
Mais
on n'est pas dans un jeu de questions-réponses permanent. Vous vous êtes exprimé clairement sur le sujet. Donc maintenant,
Vous vous donnez en spectacle là. C'est justement, c'est un débat sur le budget. Il faut qu'on puisse débattre. Vous êtes d'accord?
Alors.
Donc. Il faut quand même qu'on puisse répondre et échanger.
Je repose la question.
Moi, j'avais des choses à dire. Je continue.
Il y a des questions diverses, vous pouvez les dire après.
Non, je suis désolée, ce ne sera pas le cas. C'est hors de question qu'on vote de ces conditions.
Personne ne s'abstient. Qui vote contre? Okay.
Monsieur le maire, vous donnez une image de ce conseil municipal qui est déplorable. Franchement, par respect pour tous ces gens qui se sont déplacés, on ne va quand même pas annuler le conseil municipal sur le budget.
Vous qui partez, hein, c'est votre responsabilité, Madame Cabossurat. En tant que magistrate, c'est pas joli, joli.
Nos chers concitoyens, rendez-vous au 55, on va continuer là-bas. Le conseil municipal est annulé parce qu'il n'y a plus de quorum, hein, malheureusement. On vous donne une dernière chance. Hein, si vous voulez qu'on continue, on peut rester, mais vous nous laissez parler.
Mais restez avec plaisir, il n'y a aucun problème.
C'est vraiment dommage pour tous les gens qui se sont déplacés, moi je pense. Hein. Vous ne sortez pas gagnant de ça.
Alors, donc, on va passer au vote. Donc, qui vote contre? Monsieur Deschamborand vote contre, très bien. Qui s'abstient? Ok, donc maintenant on va vérifier pour le quorum.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ouais. Ah ouais, 15, 16, 17. Donc, on a 14, donc, s'il vous plaît. Donc, les élus d'opposition ont décidé de quitter la salle, donc nous n'avons plus le quorum, mais par respect pour les personnes qui sont venues, on va continuer à dérouler les délibérations, ceux qui veulent rester, et voilà, et ensuite, pour constater tout ça, et ensuite, on reconvoquera un conseil où il n'y a pas de condition de quorum. Voilà. Alors, donc on est dans le budget annexe de stationnement.
Donc la délibération suivante, il s'agit du reversement de l'excédent de budget annexe. Si on peut avancer la slide. Voilà. Donc c'est celle d'avant encore. On va y arriver. Voilà. Donc il y a trois conditions cumulatives qui doivent être respectées pour pouvoir reverser un montant du budget annexe dans le budget principal. Ces trois conditions cumulatives sont respectées. Par conséquent, nous proposons de reverser l'excédent d'exploitation du budget annexe stationnement au budget principal en section de fonctionnement. Page suivante. Le budget annexe dégage un excédent d'exploitation. Le budget annexe dégage un excédent d'exploitation supérieur aux besoins de financement en investissement. Il est donc proposé de reverser une partie de cet excédent après affectation des résultats 2022 vers le budget principal de la ville, soit la somme de 210 000 euros environ. Y a-t-il des questions ? Non. Si, on vote et on constate qu'il n'y a pas de quorum.
Donc, faute de quorum, on passe tout de suite, comme je vous l'ai dit, à la délibération suivante. Alors.
Alors, la délibération suivante concerne la fixation du taux des taxes foncières. Alors, il y a un brouhaha. Je ne sais pas si on peut... Oui, on n'entend rien. C'est vraiment un manque de respect pour les personnes qui sont là. Donc, si on pouvait demander aux personnes de soit se taire, soit d'aller dehors... Monsieur, d'accord, on est en train de le faire. Il est normal que les personnes qui sont déplacées puissent entendre les débats. Donc, je souhaitais donc démarrer cette délibération par un peu de pédagogie pour présenter quelles sont les principales dépenses de fonctionnement nettes. Donc ici, il s'agit des dépenses de fonctionnement duquel on a retiré les recettes affectées. Donc, par exemple, pour les crèches, il y a des recettes des parents et également des recettes de la CAF. Donc là, le montant qui figure ici, c'est le montant net qui est effectivement à la charge du contribuable vésigondin. Donc, quand on regarde donc, les principales dépenses de fonctionnement net, la première dépense, c'est le fonds de solidarité à la région Île-de-France, que j'ai déjà mentionné un peu plus tôt. C'était la mauvaise nouvelle de l'an dernier, donc 2,2 millions d'euros. Ensuite, on consacre 2 millions d'euros de notre budget à la voirie, à l'éclairage, 1,1 million d'euros aux espaces naturels, 1,3 million à la sécurité publique. Là-dedans, il y a la police municipale et le centre, le SDIS, le service incendie et le secours. Merci. Les crèches, donc on a 7 crèches aujourd'hui, nous coûtent 1,8 million d'euros net des recettes. Les cantines et le périscolaire, 1,6 million d'euros. Ensuite, on passe à la culture, donc 0,8 million pour le théâtre, 0,5 pour le conservatoire et 0,4 pour la bibliothèque. Et enfin, les sports, 0,5 million d'euros et la solidarité, 0,7 million d'euros. Ça, c'est le montant de la subvention au CCAS. Donc ça, c'est les principales dépenses nettes de recettes. Et je trouve qu'il est important de présenter aux Visigondins comment leur argent est utilisé en ce qui concerne donc les dépenses de fonctionnement. Du côté des recettes, vous voyez ici que de très très loin, et c'est l'une des caractéristiques de notre ville, c'est que c'est la taxe foncière qui est de très loin la principale recette, puisque dans notre ville, nous avons très peu d'entreprises, nous n'avons pas de siège de grands groupes, nous n'avons pas de grandes surfaces commerciales, comme ça peut être le cas à Montesson. Donc la recette principale de la ville, c'est la taxe foncière, c'est 10,8 millions d'euros en 2022. Ensuite, il y a une compensation, hein, ce qu'on appelle le coefficient compensation de l'État, qui vise à compenser la perte de la taxe d'habitation, donc 3,4 millions d'euros. Les attributions de la communauté d'agglomération, 2,2 millions d'euros. Et là-dedans, ça inclut ce qu'on appelait anciennement la taxe professionnelle, donc les fameuses recettes professionnelles, quand une ville a des entreprises ou des surfaces commerciales. Les droits de mutation, 2,5 millions d'euros. Et la dotation de l'État, 1,6 million d'euros. Voilà pour vous donner les principaux équilibres. Alors, ce sont des chiffres qui figuraient déjà en dernière page du rapport d'orientation budgétaire, mais qu'on n'avait pas pris le temps de bien expliquer. Et donc, je pense que c'est important pour faire preuve de pédagogie. Sur la page suivante, vous avez l'évolution des principales recettes. Alors, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que la dotation de l'État et les droits de mutation ont une tendance à la baisse depuis maintenant, alors pour l'un 2 ans et pour l'autre depuis 15 ans. Les attributions de compensation de la communauté d'agglo sont stables depuis plusieurs années, elles ne bougent pas. Le coefficient, le coco de l'État est stable également à 3,4 millions d'euros. Et donc la seule ressource sur laquelle nous ayons possibilité de prendre des décisions pour rééquilibrer nos comptes de fonctionnement, c'est donc la taxe foncière. C'est la seule que nous pouvons faire varier à la hausse. On n'a pas d'autre levier, si ce n'est des plans d'économie, ce que nous faisons également par ailleurs avec un plan d'économie important dont je parlerai tout à l'heure dans le budget. Donc il y a des efforts qui sont demandés au service avec un plan d'économie de 1,2 million d'euros. Et il y a effectivement un effort qui est demandé aux habitants pour rééquilibrer le budget de fonctionnement. Alors, je voulais aussi rétablir quelques contre-vérités. Alors, c'est dommage que l'opposition ne soit pas là parce que c'est elle qui les répand, que ce soit sur ses réseaux sociaux, dans ses tribunes libres, avec un certain nombre donc, d'éléments qui sont complètement faux. Donc, la première phrase, c'est les contre-vérités. Donc, là, ici, les dépenses des services ne cesseraient d'augmenter. Donc, j'ai lu ça quelque part. Il y a une mauvaise gestion de l'équipe et qui n'arrête pas d'augmenter les dépenses des services. Donc là, vous voyez sur ce graphique, en fait, les dépenses des services sont en baisse constante depuis notre arrivée en 2020. Donc là, on a retraité en 2023 la hausse des fluides, qui est quand même un élément exogène, mais hors hausse des fluides, ce poste a été réduit de 1,2 million d'euros, les dépenses des services. Alors, il est vrai qu'en parallèle, compte tenu de l'internalisation d'un certain nombre de services, il y a une hausse des charges de personnel qui viennent compenser les services qu'on a internalisés, mais cette hausse des frais de personnel est de 0,5 million d'euros. Donc ça veut dire qu'en net, des deux, on a fait déjà des économies donc, de 0,7 million d'euros sur ces deux postes, dépenses des services et dépenses de personnel. Et nous poursuivons ce plan d'économie en 2023 avec 1,2 million d'euros cette fois sur ces deux comptes, dépenses et personnel. Une autre contre-vérité, celle relative à la trésorerie. Alors, effectivement, il y a une équipe, on va dire un groupe d'opposition qui aurait précédemment laissé un trésor de guerre que nous aurions dilapidé en 3 ans. Alors là encore, c'est faux. Si on regarde le montant de trésorerie, quand on est arrivé à la mairie, il était affiché à 6 millions d'euros. En fait, on s'est vite rendu compte qu'il y avait 1,1 million d'euros qui étaient des charges relatives à 2019, qui n'avaient pas été budgétées parce que la précédente mandature n'avait pas la majorité, donc elle n'était pas capable de voter des décisions modificatives au budget. Et donc, elle a laissé filer ses dépenses sur l'exercice 2020. Et donc, on a été obligé de les budgéter et de les décaisser sur 2020. Donc en fait, la vraie trésorerie était plutôt de 4,9 millions d'euros à l'époque, avec une dette de 9,7 millions d'euros. Aujourd'hui, la trésorerie est plutôt de l'ordre de 9 millions d'euros. Voilà. Mais donc on voit qu'avec une trésorerie nette à moins 3,7 millions d'euros, on était loin d'un trésor de guerre qu'on aurait prétendument dilapidé. Alors après, on dit aussi qu'on aurait utilisé la subvention de GPA pour financer autre chose que les projets ZAC. Là encore, c'est faux, puisque à ce jour, il reste, alors à fin janvier 2023, on avait 10 millions d'euros en trésorerie, alors qu'on a déjà engagé à peu près 2 millions d'euros de dépenses sur les budgets de la ZAC Princesse. Donc là encore une fois, sur cette subvention de GPA, on en a, sur les 8,3 millions qu'on a perçus, on en a dépensé 2. Donc, il en reste 6. Et au total, on a 10 millions d'euros dans notre trésorerie actuelle. Donc, on n'a pas du tout utilisé cette subvention pour autre chose. Sur le résultat réel, bon, j'en ai déjà parlé. Hein, alors là, il y a là, ce n'est pas l'opposition, c'est une association de la ville qui a fait un écrit dans lequel elle annonce que le résultat réel de 2022 à 3,5 millions d'euros serait très largement inférieur aux excédents dégagés les années antérieures qui étaient plus proches des 8 millions d'euros. Donc là encore, c'est complètement faux. Vous voyez sur ce graphique que le résultat depuis 2014 n'a jamais dépassé les 5 millions d'euros. C'était le plus haut dans les années 2017-2018. Et on était déjà à 3 millions en 2014, en 2015. Et il y a eu une baisse exceptionnelle en 2020 du fait des chutes des recettes du confinement Covid. Mais depuis, on est revenu à des recettes qui oscillent entre 3,5 millions et 4 millions d'euros. En ce qui concerne la dette, là aussi, on nous dit le taux d'endettement de la ville serait déjà extrêmement élevé, on ne pourrait plus emprunter. Là encore, c'est faux. La dette début 2023 est de 11 millions d'euros. Donc le ratio endettement sur recettes de fonctionnement est de 40%. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que par rapport à nos recettes de fonctionnement qu'on touche chaque année, eh bien, il y a 40% de ce montant de recettes qu'on touche chaque année qui représente le montant de la dette. La moyenne nationale est de 80%. Donc on est moitié moins que la moyenne nationale. Si on était à la moyenne nationale, on aurait aujourd'hui une dette de 22 millions d'euros. Donc vous voyez qu'on en est très loin. Et on s'engage à ne pas dépasser un ratio d'endettement de 60%. On sera certainement en dessous. Mais en tout cas, c'est un engagement. Ici, on ne parle que de la dette financière. Je pense qu'il faut aussi relever la dette patrimoniale. Ça fait plus de 15 ans que le patrimoine de la ville se dégrade. Donc, c'est ce qu'on appelle la dette grise. Hein. La Cour des comptes appelle ça la dette grise ou la dette patrimoniale. Nous, nous sommes engagés dans une démarche de réduction de cette dette via plusieurs opérations. Alors, j'en ai cité quelques-unes. La rénovation du centre-ville, la rénovation amélioration des bâtiments publics. On a la crèche du centre qui est en pleine rénovation agrandissement. Les aménagements de voirie avec les pistes cyclables qu'on va voir très vite sur la route de Croissy. Donc, tout ça, on s'attaque à cette dette patrimoniale. Et en effet, on ne s'interdit pas d'avoir recours à la dette financière pour s'attaquer à la dette patrimoniale. Un petit mot personnel, et là encore, c'est dommage que Mme Cabossiora ne soit pas là. Je pense qu'on est quand même nombreux dans les habitants du Vésinet à avoir bénéficié des taux d'intérêt extrêmement faibles. J'en ai moi-même bénéficié en rentrant dans des opérations qu'on appelle à effet de levier, où vous faites un investissement financé intégralement par la dette. Et donc, quand vous avez un taux d'intérêt extrêmement faible, bah, ça vous permet de rembourser votre emprunt avec les excédents dégagés par cet investissement. Donc, je pense qu'on est nombreux à avoir fait ces opérations-là du temps où les taux d'intérêt étaient à 1%. Et je répète qu'en 2022, lorsque j'ai pris la décision de contracter un emprunt de 2 millions d'euros à un taux d'intérêt de 1% pour faire des travaux de rénovation de l'éclairage public qui en avait bien besoin et de remplacement des lampes très consommatrices en énergie par des lampes LED, je considère que c'est une excellente décision, j'en suis fier. Et je pense que même si à l'époque on n'avait pas besoin de contracter de la dette, c'était le bon moment de le faire, c'était le bon moment de contracter la dette à 1% et surtout pour faire quelque chose qui s'attaque à notre dette patrimoniale, à notre patrimoine, à notre éclairage public. Donc, Encore une fois, c'est une décision, l'opposition n'arrête pas de la contester. Moi, je pense que c'était une excellente décision, j'en suis très content. Ensuite, sur la taxe foncière, on nous dirait aujourd'hui que la hausse de la taxe foncière serait due à une mauvaise gestion de l'équipe en place, à une dérive des projets sur le parc Princesse. Là, cette affirmation, ça résulte d'une confusion persistante que l'opposition fait à dessein entre résultats de fonctionnement et dépenses d'investissement. En fait, on l'a vu tout à l'heure, la taxe foncière, ça permet d'avoir un budget de fonctionnement qui soit sain et de dégager une capacité d'autofinancement. La raison structurelle du déséquilibre de ce budget de fonctionnement, c'est la baisse continue du net entre la dotation de l'État et le prélèvement de solidarité régionale, le SRIF. On a perdu 3,5 millions d'euros en 9 ans. Et depuis notre arrivée, on a perdu 800 000 euros du fait des versements au SRIF. Donc, c'est 800 000 euros à trouver d'une façon ou d'une autre. Et donc, la hausse de taxe foncière qu'on propose aujourd'hui est de l'ordre de 950 000 euros. Donc, vous voyez que ça vient essentiellement combler ce trou créé par le versement au SRIF. Dernière contre-vérité sur la taxe foncière, on nous dit la hausse de la taxe foncière serait insupportable pour les Visigondins qui ont déjà un pouvoir d'achat fortement affaibli. Là encore une fois, ce que j'aimerais rappeler, c'est qu'il y a une très forte baisse des impôts locaux depuis 2019. Ici, les chiffres que vous voyez, on a pris des feuilles d'imposition de ménages Visigondins. C'est des cas réels et on en a fait la moyenne. Et donc, vous voyez que la moyenne de ces ménages payait en 2019 5 000 euros de taxes locales, dont 2 200 de taxes foncières, 2 700 taxes d'habitation et 139 euros de redevances. En 2023, les mêmes ménages vont payer 2 600 euros de taxes foncières après l'augmentation. Donc, ça veut dire que depuis 2019, il y a eu un gain de pouvoir d'achat de 2 400 euros. C'est quasiment la moitié du montant de taxes locales de ce qui était payé en 2019. Donc, en effet, il y a bien un gain de pouvoir d'achat sur les impôts locaux. Et concernant la hausse de la taxe foncière, il est vrai qu'une hausse de fiscalité n'est jamais bien reçue. Ça, je veux bien le concevoir. Ça ne me fait pas plaisir non plus. En revanche, elle est supportable à partir du moment où elle est expliquée et comprise. Et c'est ce que j'essaye de faire et ce que je vais refaire lors du prochain conseil municipal. Avec des points qui sont indiscutables. D'une part, les attentes des Visigondins sont importantes sur le patrimoine, sur la sécurité, sur la propreté. Ils ont des attentes importantes en ce qui concerne leur ville, ils ont une ambition pour leur ville. Ils ne veulent pas voir ces attentes se non réalisées, ils ne veulent pas voir la ville se dégrader. Donc on ne peut pas continuer à lancer des plans d'économie année après année et ne faire que ça. Les taux de taxes foncières sont très bas au Vésiné par rapport aux communes qui nous entourent. Je vais vous remontrer un graphique juste après. Le pouvoir d'achat au Vésiné parmi les plus élevés de la région, ça explique les bases fiscales élevées. Parce qu'en effet, on nous dit, oui, les taux sont très faibles. L'opposition reconnaît que les taux sont très faibles, mais elle nous dit, mais les montants qu'on paye au Vésiné sont élevés. Alors pourquoi ? C'est parce que ces taux s'appliquent à des valeurs locatives qui sont élevées, en effet. Et pourquoi ces valeurs locatives sont élevées ? C'est notamment parce que les loyers au Vésiné, donc on a une étude récente de la communauté d'agglomération sur l'habitat dans la communauté d'agglomération, qui montre que les loyers au Vésiné sont les plus élevés de toute la communauté d'agglomération au mètre carré. Donc en effet, loyer élevé, valeur locative élevée et donc base fiscale élevée. Voilà. Donc cette décision de hausse des impôts, encore une fois, ce n'est pas une fatalité. C'est un choix assumé pour répondre aux besoins de la ville. Donc rapidement, le comparatif des taux de taxes foncières, je l'ai déjà montré la dernière fois. Donc vous voyez qu'en 2022, le taux de la taxe foncière du Vésiné était de 23,44%. Vous voyez toutes les autres villes qui sont à gauche et à droite de nous, je ne vais pas les citer ici. Le taux moyen de la strate, donc c'est-à-dire les villes de même taille que le Vésiné, le taux moyen est de 40%. Donc c'est quasiment le double de notre taux. Et donc la hausse de 2 points que nous vous proposons dans cette délibération nous amènerait vers le milieu des villes comparées. et on serait encore en dessous de nos voisins du PEC ou en dessous de Maison Lafitte, par exemple, et encore très en dessous de la strate nationale. Voilà, donc j'en arrive donc à la décision que nous souhaitions soumettre au vote, qui est donc d'augmenter les taux de taxes foncières de 2 points sur les propriétés bâties et sur les propriétés non bâties. Donc ce serait 25,44% sur les propriétés bâties et 38,30% sur les propriétés non bâties.
OK. Donc, on avait un point à faire aussi donc sur... Non, oui, pareil, hein, il n'y a pas de quorum, quoi. Hein, donc, pas de vote, pas de quorum. Donc, ça sera reporté au prochain conseil. Et donc, on va passer au budget primitif de la ville pour 2023.
Alors, le budget, je vais essayer d'aller assez vite. Donc, on aurait des dépenses réelles de fonctionnement de 25,9 millions d'euros. En hausse de 1,4 par rapport à 2022, et qui comprend donc des mesures d'économie de 1,2 million d'euros, à la fois sur les dépenses des services et sur les charges de personnel. Les recettes réelles en hausse de 1,1 million d'euros, avec une hausse des recettes de taxes foncières et en contrepartie, il y aurait une baisse attendue des droits de mutation du fait du marché immobilier difficile. Le résultat réel est prévu à 3,2 millions d'euros, et les dépenses d'investissement sont prévues à 16 millions d'euros. Là, notre focus vraiment en 2023, c'est de travailler sur la ZAC Princesse. C'est vraiment le point le plus important. Une grande partie de nos ressources villes sont mobilisées sur cette ZAC Princesse. Et donc, c'est la raison pour laquelle 10 millions d'euros sur les 16 sont prévus sur la ZAC Princesse. Et donc, ce qui donnerait un emprunt d'équilibre de 4 millions d'euros environ. Donc, sur les dépenses de fonctionnement, qu'est-ce que je peux dire ? Il y aurait un transfert de 6 millions budget d'investissement et une hausse des dépenses des services contenues malgré l'inflation. En recettes, on budgète là encore une fois les recettes de façon prudente. Malgré les augmentations de tarifs municipaux, hein, il y a eu des augmentations de tarifs au 1er janvier 2023, 3,5% sur tout ce qui est scolaire et périscolaire, mais on reste prudent sur le budget, comme on en a l'habitude. Dans le chapitre 73, donc, il y a principalement les taxes foncières et d'habitation, les droits de mutation et les contributions de la CA. Et dans le chapitre 75, donc, à noter, pour faire le lien avec la délibération précédente, vous voyez ici en produit, en autre produit de gestion courante, c'est le reversement du budget annexe stationnement qu'on a vu tout à l'heure. Les dépenses d'investissement, donc, comme je l'ai dit, c'est essentiellement la ZAC Princesse. Notre but, là, en 2023, c'est de... poursuivre, voire terminer les opérations qui ont été lancées en 2022, de ne pas se lancer dans des nouvelles opérations avant d'avoir des réponses concernant nos demandes de subventions. Donc, on a déposé un certain nombre de demandes de subventions sur le fonds vert, qui est donc un dispositif de l'État, sur des opérations liées à l'écologie, en gros, donc les fonds verts. Donc, on a déposé 2 dossiers. On a déposé un dossier sur la DECIL auprès de la préfecture. On va déposer un certain nombre de dossiers auprès du conseil régional, du conseil départemental. Et donc là, l'idée, c'est d'attendre de voir les réponses à ces demandes de subvention. Et en fonction des réponses, on inscrira à ce moment-là à la fois les recettes et les dépenses qui concerneront donc ces subventions. Donc on ne se lance pas dans un budget de nouveaux investissements avant d'avoir la certitude d'obtenir des investissements sur ces opérations-là. Voilà comment on a construit notre budget d'investissement sur 2023. Et donc, vous avez en page suivante les principales opérations. C'est là que vous voyez donc la ZAC Princesse, donc page suivante, pour 9,8 millions. Vous avez le centre-ville avec donc un certain nombre encore d'études qui sont nécessaires pour lancer l'opération à 300 000 euros. Un peu d'éclairage public, on a mis 200 000 euros, mais étant donné qu'on a fait une grosse demande de subvention, On espère bien pouvoir faire plus que ces 200 000 euros une fois qu'on aura les résultats des subventions. Et je rappelle qu'on a un gros reste à réaliser de 851 000 euros. Donc ça fait déjà un peu plus d'un million d'euros mobilisables en 2023 pour poursuivre la rénovation de l'éclairage public et continuer à installer des lampes LED pour réduire notre consommation d'électricité. L'opération centre de soins ou maison de santé, là il s'agit des travaux d'équipement de l'intérieur de ces murs qu'on a acquis l'an dernier pour 700 000 euros. La route de Croissy, là il s'agit de l'éclairage public. On va installer des nouveaux mâts et donc faire un nouvel éclairage public pour 300 000 euros. Et la crèche du centre, donc pour 1 million d'euros, c'est ce dont je parlais plus tôt avec la création de un peu moins de 30 berceaux supplémentaires. Donc je termine par les recettes d'investissement. Il y a deux cessions immobilières qui étaient déjà inscrites en 2022 et qui ont été un peu reportées, donc pour 1,1 million d'euros. On voit ici qu'on a un emprunt d'équilibre de 4 millions d'euros et on a des restes à réaliser sur les subventions notifiées et non encore versées, ainsi que l'emprunt qu'on a contracté en 2022. Voilà, j'ai essayé d'être le plus bref possible.
Merci. Ok, merci. On va faire un point sur...
Donc, toujours pas de quorum.
Oui, pareil. Hein, donc,
je pense que c'est important de le rappeler.
Voilà, donc je rappelle que faute de quorum, on peut voter. On peut faire un point sur les subventions.
Alors, les subventions sont... analysées, étudiées au sein de la commission culture et association dont j'ai la responsabilité. Mais comme je suis membre de plusieurs bureaux associatifs, je ne peux donc pas... Même s'il n'y a pas de vote, ouais. Je peux quand même dire ce que j'ai à dire.
Non,
j'ai cru comprendre que comme j'étais membre de plusieurs bureaux associatifs, je ne pouvais donc pas présenter la demande de subvention. Je peux présenter des tas de choses, mais pas la demande de subvention. Et c'est pour ça que j'ai demandé à Julie de bien vouloir le faire en mon nom.
Oui, ça c'est une disposition tout à fait légale. Hein. Donc il y a eu d'ailleurs un arrêt extrêmement récent qui a condamné une ville qui avait voté des subventions en présence de personnes d'élus qui étaient au conseil d'administration ou qui faisaient partie des associations. Ça, c'est la raison pour laquelle on est pratiquement tous concernés, d'ailleurs. C'est la raison pour laquelle on a demandé à Mme Roman, qui n'est pas dans un conseil d'administration ou dans une équipe dirigeante d'association, pour éviter les conflits d'intérêts, de vous faire cette présentation.
Donc, un effort a été demandé de 10% aux plus grosses associations. Et comme tous les ans, certaines associations qui bénéficient de subventions ponctuelles aussi pour les aider dans un projet spécifique sur l'année. Donc, j'ai présenté en bloc toutes les associations. Donc, vous avez le détail sous les yeux. Donc, il y a pour la classe PACT, 800 euros. Donc ça c'est l'école PALU, les contributions aux écoles privées de 228 000 euros qui concernent le Bon Sauveur, Jeanne d'Arc, Sainte-Odile, Sainte-Anne et Notre-Dame à Château et Sainte-Anne de Montesson. L'atelier des arts appliqués du Vésinet avec 300 euros, la chorale Homo-Musica avec 300 euros, le CQFD cadre 78 avec 250 euros, le Vésine Art, 500 euros. Les ateliers de la boucle, 150 euros. Le club des échecs du Vésiné, 500 euros. L'esprit musical du Vésiné, 4500 euros. Pivot, 250 euros. La société des membres de la Légion d'honneur, 150 euros. Vésiné boucle image, VBI, 750 euros. Les archers du Vésiné, 1500 euros. L'USV, 90 000 euros. Aide au volontariat à Pondichéry, 200 euros. Association Joker, 700 euros. Boucle accueil et emploi, 250 euros. Les AVF, 1000 euros. l'habitat et humanisme, 200 euros, les ateliers extraordinaires, 100 euros, secours catholique, 500 euros, le secours populaire, 500 euros, les jardins du Vésinet, 400 euros, la PEP du Vésinet, 150 euros, Live After Work, 3500 euros, le comité du jumelage du Vésinet, 7000 euros, comité du jumelage du Vésinet, 2000 euros, le théâtre du Vésinet, 672 850 euros, maison de la jeunesse et de la culture, 94 500 euros, la société d'histoire du Vésinet, 2000 euros.
Merci Julie, soit un total d'1 113 800 euros. Voilà, la dernière délibération, donc Monsieur Petz, on n'a pas le quorum et on ne peut pas voter, comme pour les autres délibérations. Donc le budget annexe stationnement pour le budget primitif de 2023.
Oui, là ce sera rapide. Comme j'ai déjà dit, le budget stationnement, donc ce sont nos principaux parkings de la ville. Donc on aurait des dépenses de fonctionnement de 580 000 euros, dans lesquelles figurent donc les 210 000 euros de versement au budget principal de la ville. Et donc en recette, on a les produits des services du domaine, c'est-à-dire ce que payent les utilisateurs des parkings pour 228 000 euros, et un résultat de fonctionnement reporté de 352 000 euros. En investissement, pas grand-chose, hein, si ce n'est le renouvellement d'un certain nombre de petits équipements pour 35 000 euros. Et il y a également le remboursement de la dette, puisque à l'époque, donc en 2008-2009, où la dalle a été refaite, la place du marché a été refaite, une partie de l'emprunt qui avait été souscrite à l'époque pour refaire la place du marché après l'incendie de la patinoire a été allouée à ce budget annexe. Et donc, effectivement, chaque année, on rembourse une partie de cet emprunt. Ici, c'est donc 170 000 euros en dépenses d'investissement. Voilà, et puis la même chose côté recette, grâce à un virement de la section de fonctionnement et un excédent de fonctionnement capitalisé. Voilà.
Très bien, merci Monsieur Metz. Bien, écoutez, pour clore ce conseil un petit peu particulier, d'abord je voudrais remercier vous-même qui êtes resté, et on peut d'ailleurs discuter après la clôture du conseil, avant c'est pas possible, mais on va rester un petit moment. Aujourd'hui, je voudrais exprimer quand même que je regrette qu'on n'ait pas une position qui soit un peu plus constructive pour une raison simple, hein, c'est que tous les chiffres que vous avez vus, c'est un travail énorme qui est fait par les agents de la ville, que je tiens à saluer et à remercier, qui ont passé beaucoup de temps sur le sujet, les élus également. Et donc ça me paraît quelque chose d'important et effectivement très regrettable. Alors juste pour vous expliquer la situation, pour ceux qui ne sont pas habitués à ce genre de choses, donc le conseil municipal est composé de 33 élus, donc 20 élus de la majorité et 13 élus de l'opposition. Et pour que le conseil puisse délibérer, comme ça l'a été au début, avant que les conseillers d'opposition quittent la salle, quittent le conseil, il faut avoir un quorum, quoi, hein. Et donc ce quorum doit être équivalent. Donc c'est le nombre d'élus qui doivent être présents pour voter. Et donc c'est égal à la moitié du conseil. Alors 33 divisé par 2, ça fait 16,5. Donc c'est 17. Et donc si on n'est pas 17 en nombre, donc on ne peut pas légalement délibérer. Voilà, donc ça c'est l'explication sur le quorum. Et les élus qui ont pouvoir, ce sont les personnes physiques qui compte. Hein. Le pouvoir ne compte pas pour le quorum. Le pouvoir compte pour les votes, mais pas pour le quorum. Donc voilà. Donc qu'est-ce qui se passe à la suite de ça? Parce qu'il faut quand même effectivement donc faire ses délibérations. Donc le conseil municipal doit reconvoquer rapidement un nouveau conseil. Donc c'est quelque chose qui aura lieu donc probablement lundi ou mardi. Il faut qu'on discute de ça. Mais voilà. Donc et cette reconvocation est à doit se faire après un délai de 3 jours. Et dans ce conseil, on va dire, de remplacement, donc là, il n'y a plus de notion de quorum. Donc la semaine prochaine, on passera en délibération toutes celles qui n'ont pas pu être votées ce soir. Voilà, eh bien, merci beaucoup. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.